Vous écoutez le podcast Allez savoir. Aujourd'hui, nous nous intéressons au phénomène de harcèlement scolaire avec Sylvie Torgemann, professeure de pédopsychiatrie à l'Université de Rennes 1. Sylvie Torgemann, bonjour. Qu'est-ce que le harcèlement scolaire ?
Le harcèlement a été défini dans les années 70 par Olweus, qui est un professeur en psychologie, qui le définit comme se caractérisant par comme un type d'agression qui est délibérée, à savoir c'est non accidentel, il y a une intentionnalité. Deuxièmement, il s'agit d'un acte qui est répété, donc il faut qu'il y ait au moins plus d'une fois des conduits de harcèlement pour qu'on puisse parler vraiment donc, de harcèlement. Et enfin, ça s'inscrit dans une relation d'inégalité avec un abus de pouvoir, en sachant que souvent il est questionné le caractère donc, délibéré. Est-ce que les enfants ont réellement conscience chez les enfants harceleurs de ce qu'ils font ? À cela, on peut répondre que oui, il y a une intentionnalité dans la mesure où cet acte est répété. Et enfin, ce qui est aussi questionné, c'est la relation d'inégalité dans la mesure où souvent le harcèlement peut démarrer entre deux personnes qui se connaissaient bien, qui pouvaient même avoir des relations d'amitié, avec des conflits qui vont apparaître. Et si au départ la relation elle peut être en effet tout à fait horizontale, très rapidement, au bout de plusieurs semaines ou mois de harcèlement, on est en effet bien dans une relation d'inégalité.
Existe-t-il un profil type d'enfant harcelé et d'enfant harceleur ?
C'est une question qui est très importante. Il n'y a pas de profil type, il n'y a pas de typologie, que ce soit par rapport aux enfants harcelés ou par rapport aux enfants harceleurs. Si on prend l'exemple chez les enfants harcelés, d'enfants qui vont, parce qu'ils seraient issus d'un milieu socio-économique très favorisé, qui seraient donc sujets à certaines moqueries, on a exactement aussi des problèmes de harcèlement par rapport à des enfants qui sont issus de milieux défavorisés. Ce qui va faire plus donc, l'objet donc, d'un harcèlement qui va se centrer sur ce point, c'est des points de différence, mais les points de différence, ils sont multiples, que ce soit des différences physiques, que ce soit des différences socio-économiques, que ce soit des différences même de réussite scolaire. Donc finalement, tout point peut être sujet donc, à être un point d'ancrage et de démarrage de harcèlement.
Et pour les enfants harceleurs ?
Pareil, du côté des enfants harceleurs, il n'y a pas de typologie. Ces enfants ne sont pas des monstres. Ce qui a été mis en évidence dans un certain nombre d'études, c'est qu'il n'y a pas de problème d'empathie cognitive, c'est-à-dire de difficulté à comprendre donc, les émotions d'autrui. Ce n'est pas parce qu'ils ne comprendraient pas ce qu'ils font qu'il y aurait des conduites de harcèlement répétées. Mais il y a un problème de difficulté à se mettre à la place de l'autre donc, au niveau émotionnel. Et c'est probablement un des points sur lesquels il faut travailler par rapport aux enfants harceleurs et aussi au niveau des témoins, de façon à ce qu'il puisse y avoir une meilleure prise en considération de ce que peut vivre et éprouver l'enfant harcelé.
Pourquoi avons-nous l'impression que l'on parle de plus en plus de harcèlement scolaire ? Est-ce un phénomène qui augmente ?
Alors, c'est une bonne question. Le harcèlement scolaire, le harcèlement général, il a toujours existé. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a un focus, qu'on en parle plus. Il y a eu, grâce aussi aux médias, avec des événements qui ont permis que ça devienne un débat de société, que ça soit des tueries. Je pense aux États-Unis où il y a eu tout un débat, il y a maintenant un certain nombre d'années, dans les années 90, sur des tueries dans certains établissements scolaires. Que ça soit donc maintenant en France, où l'éducation nationale s'est saisie de cette problématique, que ça soit au niveau épidémiologique, que ce soit par rapport à des programmes pour lutter contre le harcèlement. Donc en effet, on en parle plus. La petite différence par rapport à ce qui se passait avant et ce qui se passe actuellement, c'est qu'avec les nouvelles technologies, avec tout ce qui va être Internet, SMS, le harcèlement a pris une autre figure, une autre tournure, puisque avant, quand il y avait harcèlement scolaire, l'enfant sortait des murs de l'école et il pouvait se ressourcer dans d'autres environnements, que ce soit dans sa famille, que ce soit dans des activités donc extrascolaires, périscolaires. Et actuellement, donc, il est poursuivi littéralement par rapport aux différents lieux dans lesquels il pourrait se développer, dans lesquels il pourrait évoluer, parce que donc, l'information est transmise quels que soient les lieux dans lesquels il va.
Comment mesurer le harcèlement ? Combien y a-t-il d'enfants harcelés et harceleurs en France ?
Il y a eu des enquêtes épidémiologiques qui ont été faites en France, avec peut-être une petite nuance, c'est que souvent ces chiffres sont sous-estimés, dans la mesure où ça ne va pas du tout de soi pour un enfant qui est harcelé d'en parler. Il y a aussi un peu un phénomène de honte qui va aboutir à ce que l'enfant ne va pas en effet forcément déclarer qu'il est harcelé. Et donc du coup, on a des chiffres qui sont sous-estimés par rapport à d'autres pays. Donc les chiffres en France, je pense à une étude épidémiologique ministérielle qui avait été faite en 2011, donc ça date un petit peu, mais qui avait été très très bien faite, et où on on était donc sur des chiffres donc de à peu près donc de 6 à 15% donc d'enfants harcelés, en sachant qu'il y avait des différences selon les niveaux scolaires, 14% donc au niveau de l'école primaire, 12% au niveau donc du collège. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ces chiffres tombent de façon vraiment importante, puisqu'on a 2 à 3% donc au niveau du lycée.
Et combien d'enfants harceleurs ?
Côté enfants harceleurs, on a à peu près donc de 4 à 6% donc d'enfants harceleurs. Et il y a aussi une catégorie qui est intéressante, qui relève à peu près aussi de 3 à 4% donc d'enfants qui sont harceleurs, donc harcelés, c'est-à-dire qui ont pu vivre, subir des conduites de harcèlement et qui viennent eux-mêmes aussi donc s'inscrire à un moment donné du côté des enfants harceleurs qui deviennent eux-mêmes donc harceleurs. Donc en gros, en France, chiffre, enfin année après année, il ressort à peu près qu'il y a à peu près 10% d'enfants en moyenne, d'enfants harcelés. On est très très loin des chiffres qui sont donnés par les Américains, les États-Unis, qui donnent des chiffres de l'ordre de 40% sur toute une vie scolaire, sur tout un parcours scolaire. Il y a 40% d'enfants qui vont dire qu'à un moment donné, ils ont pu en effet subir des brimades ou de véritables conduites de harcèlement.
Comment expliquez-vous ces écarts de chiffres entre la France et les États-Unis ?
On peut mieux comprendre cette différence entre donc, les chiffres des études épidémiologiques françaises et par exemple les études qui ont été faites aux États-Unis par rapport à l'évaluation et aux mesures donc, de ces conduites de harcèlement, en sachant que par exemple aux États-Unis, ils ont des chiffres beaucoup plus importants au niveau études épidémiologiques à partir donc, de questionnaires qui sont remplis par la classe, par tous les élèves d'une même classe, qui vont avoir du coup une liste où on leur demande, avec tous les noms et prénoms de la classe, qui parmi ces enfants ont été harcelés et qui parmi ces enfants sont ou ont été donc des enfants harceleurs. En sachant que ce système-là, par exemple, est très compliqué à mettre en place en France, puisque ça se rapproche quand même d'un système de délation qui n'est pas très bien vécu du côté de l'éducation nationale.
Quel rôle jouent les témoins de harcèlement et pourquoi ont-ils un rôle essentiel ?
Les témoins ont un rôle qui est fondamental. Peut-être que c'est important de rappeler qu'il ne peut pas y avoir de harcèlement s'il n'y a pas de témoins. C'est ce qui fait la différence avec la maltraitance. C'est un peu comme s'il n'y a pas de harcèlement, s'il n'y a pas de spectacle et de spectateurs. Les témoins vont venir donc valider l'enfant harceleur dans la place qu'il essaie d'occuper donc par rapport au harcèlement, à savoir que chacun joue un peu sa place dans cette problématique de harcèlement. L'enfant harceleur, il va jouer sa place d'enfant populaire, de leader, une place donc de pouvoir. Et il va avoir besoin du coup des témoins et du regard des témoins pour pouvoir asseoir cette position. Et quand on a affaire à des enfants qui sont témoins de harcèlement et qu'on leur demande pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas réagi, c'est moins la peur des représailles qui joue que la peur d'être exclu du groupe, puisque souvent il va y avoir une menace, si tu n'es pas content, tu n'as qu'à partir. Les témoins ont un rôle essentiel, il suffit qu'il y ait un ou quelques témoins qui s'élèvent contre l'enfant harceleur, qui viennent dénoncer ce qu'il se passe, pour que du coup l'enfant harceleur ait peur de perdre sa position de leader, il ait peur de diminuer en popularité, et où du coup donc, c'est le simple fait de s'élever contre le harcèlement de la part des témoins permet de diminuer, voire même de stopper tout harcèlement. Donc ils ont un rôle qui est fondamental et qui n'est pas forcément si connu que cela, parce que là ça donne une piste qui est essentielle, fondamentale pour pouvoir donc, lutter contre le harcèlement.
Quelles sont les conséquences pour un enfant victime de harcèlement ? Au niveau personnel, de sa scolarité, mais aussi de sa santé.
Il y a des conséquences qui sont très diversifiées. Donc ça va de conséquences sur le plan psychologique avec des troubles anxieux, des troubles dépressifs, une perte de l'estime de soi. Ça va avoir des conséquences au niveau scolaire, bien évidemment, puisque quand il y a des conduites de harcèlement qui sont inscrites depuis un certain temps, il peut avoir un absentéisme, voire une totale de déscolarisation, avec aussi, bien sûr, des résultats scolaires qui vont s'en ressentir. Ça peut avoir des conséquences donc, au niveau donc, physiologique, avec, par exemple, le cortisol, qui est une neurohormone de stress, qui va être soit très élevé, qui témoigne d'une réponse au stress augmentée, soit anormalement bas, qui témoigne d'un stress chronique. Il peut y avoir des effets carrément au niveau donc, génétique, avec une altération des télomères, donc ça c'est vraiment au niveau des chromosomes, qui sont en plus qui jouent un rôle, puisque les télomères sont impliqués dans le vieillissement, donc un vieillissement du coup qui serait accéléré, par des mécanismes qui mettent en jeu donc, le stress. Et on peut s'interroger sur comment le harcèlement peut provoquer des effets aussi sévères et avec des domaines aussi variés. Et là, on se rend compte que finalement, un simple processus d'exclusion a des effets extrêmement délétères et ce, probablement en rapport donc, avec un besoin de l'individu d'être membre d'un groupe et de pouvoir avoir sa place dans un groupe, donc de ne pas être exclu du groupe.
Comment peut-on aider les enfants harcelés ?
J'aurais envie d'élargir la question à comment on peut aider les enfants harcelés, les enfants harceleurs donc, et les témoins. À savoir qu'il s'agit vraiment d'un phénomène de groupe, un processus de harcèlement qui va toucher donc, une dynamique de groupe. Des leviers mobilisateurs qui peuvent être de se mettre à la place d'eux, c'est-à-dire les jeux de rôle. Ça peut tout à fait permettre donc, à un enfant harceleur, en se mettant à la place, de pouvoir mieux comprendre ce que ressent l'enfant qui est harcelé. Pareil du côté donc, des témoins, et on a vu l'importance des témoins, donc il suffirait à ce moment-là qu'il y ait quelques témoins qui s'élèvent contre ce qui se passe pour que la problématique de harcèlement, la dynamique de groupe change. Donc je pense qu'à partir donc, de jeux de rôle qui peuvent être proposés à l'ensemble du groupe, qui permet aussi d'avoir un énorme avantage, c'est-à-dire de ne pas désigner qui est l'enfant harcelé, qui est l'enfant harceleur et qui sont les témoins, de façon à ne pas cristalliser des identités qui pourraient perdurer par la suite.
Quel est le rôle de l'école ?
L'école, l'établissement scolaire va avoir un rôle un peu de recadrage en recevant aussi bien donc, les parents de l'enfant harceleur avec l'enfant harceleur que les parents de l'enfant harcelé et avec l'enfant harcelé pour pouvoir soutenir donc, l'enfant harcelé, pour pouvoir lui montrer aussi qu'il est bien dans une institution juste, qui réagit, qui ne laisse pas faire des conduites qui relèvent de l'intolérable. L'école a tout à fait un rôle de rappel par rapport à la loi, mais elle va avoir aussi un rôle de suivi, c'est-à-dire qu'une fois que du harcèlement est connu au sein d'une école, il va falloir non seulement convoquer une fois les parents de l'enfant harceleur et l'enfant harceleur, mais faire un suivi de façon à savoir si le harcèlement ne va pas se déplacer du groupe classe au groupe, par exemple, périscolaire, au niveau par exemple, de la cantine, où finalement le harcèlement perdurerait, notamment par rapport aux témoins qui ont été témoins de certains actes donc, au sein de la classe et qui viendraient aussi véhiculer certaines représentations qui perdureraient par la suite.
Et le rôle des parents ?
C'est une question qui est importante. Quand on demande à des parents d'un groupe où il y a du harcèlement, donc il y a certains qui disent « mais nous, on n'est pas concernés parce que notre enfant n'est ni harceleur ni harcelé ». Sauf que si leur enfant est témoin, ils sont directement concernés parce qu'en effet, ils peuvent contribuer à ce que le harcèlement puisse diminuer, voire cesser, tout simplement en rappelant des règles, qui sont des règles d'humanité, qu'il y a des comportements qui ne sont pas acceptables, en expliquant aussi les conséquences donc, du harcèlement donc, à leurs enfants, en venant les soutenir par rapport au soutien de certaines valeurs qui vont permettre donc à l'enfant qu'il y ait une prise de conscience ou en tout cas qu'il y ait une discussion et surtout qu'on ne fonctionne plus dans le huis clos. C'est-à-dire que les parents, c'est une autre sphère, c'est un autre environnement qui va permettre qu'on puisse discuter des questions de harcèlement et que ce qui se passe dans le huis clos d'une classe avec des enfants harceleurs, harcelés, des témoins, puissent être parlés autre part. Et donc, ils ont aussi un rôle fondamental, ne serait-ce qu'en termes de communication intrafamiliale, pour pouvoir mettre des mots sur des comportements qui se pérennisent d'autant plus que ça ne relève pas d'une communication donc, verbale, mais c'est une communication qui est agie avec des conduites de harcèlement qui persistent.
Du harcèlement scolaire au harcèlement à l'âge adulte, il n'y a qu'un pas ?
Tout à fait, c'est-à-dire que peut-être un point qui est important, c'est que lutter contre le harcèlement scolaire, c'est également donc lutter contre d'autres formes de harcèlement qui peuvent exister dans notre société, aboutir à ce qu'il y ait une prise de conscience comme quoi, quand on est témoin, il suffit qu'il y ait un ou quelques témoins qui s'élèvent contre des conduites répétées, violentes, que subiraient donc certaines enfants qui sont victimes. Et bien ça, cette prise de conscience va permettre aussi que ultérieurement dans la société, quand on assiste à certaines choses qui sont de l'ordre de l'inacceptable, qu'on puisse et aussi s'élever contre en se disant que cette action va pouvoir avoir tout à fait un effet, qu'on n'est pas seul. C'est également donc une prise de conscience qui remonte même avant l'environnement scolaire, c'est-à-dire qu'au sein de l'environnement familial, il peut y avoir un travail sur certaines valeurs et qui sont des valeurs de solidarité. C'est des valeurs aussi de considérer que toute personne a des droits et qu'on ne peut pas laisser ses droits bafoués. Aujourd'hui, c'est un enfant qui est harcelé. Demain, ça peut être toute personne donc, autour de nous. Ça peut nous impliquer directement. Je reprendrai peut-être la citation de Victor Hugo qui disait que la solidarité, c'est une valeur qui est donc universel, ça va bien plus loin que la fraternité. C'est une valeur qui touche à notre humanité et la solidarité implique qu'il n'y a pas de place pour l'exclusion.
Dernière question. Avez-vous des livres ou des films à nous conseiller pour en savoir plus ?
Par rapport aux ressources et pour peut-être aller plus loin pour qu'il y ait une réflexion qui soit approfondie, tranquillement, à tête posée. Il y a à la fois donc un article que j'ai écrit récemment qui vient de sortir donc dans la revue L'Encéphale qui s'intitule « Le harcèlement scolaire, comment occuper une place dans le groupe par l'exclusion ». Donc on voit vraiment tout le rôle, la fonction de fédératrice de l'exclusion et comment on peut lutter contre cette exclusion. Et il y a aussi des livres qui sont excellents comme « Le que sais-je » donc sur le harcèlement scolaire qui permet d'aller plus loin sur cette question. Il y a en effet une série qui a été très largement suivie par les préadolescents et adolescents qui s'appelle 13 Reasons Why, donc 13 raisons je crois en français, qui fait un petit peu toute la rétrospective de qu'est-ce qui a pu se passer pour une jeune qui est décédée suite à sa tentative de suicide et qui subissait en effet des problèmes une problématique de harcèlement. C'est une série qui est vraiment très intéressante, qui permet d'aller plus loin aussi, de mieux comprendre un peu l'éprouvé de ces jeunes par rapport, et y compris des témoins. Qu'est-ce que des témoins auraient pu faire si, en effet, ça avait pu se passer autrement.
Retrouvez tous les épisodes d'Aller Savoir sur Intraparis et sur le site Ocha. Écoutez, comprendre, apprendre avec Aller Savoir.